Bonjour à tous, il est 9h10 à Port-au-Prince, 2 heures de moins à Boulder. Boulder aux États-Unis, ville du Colorado, endeuillée par une nouvelle fusillade de masse. Les policiers d'Haïti appelés en sit-in. Aujourd'hui, on en parle avec Godson Pierre d'Alter Press qui nous attend à Port-au-Prince. On ira aussi au Québec où cette année encore le Covid empêche les amateurs de tir d'érable de déguster leur sirop favori normalement. C'est un reportage plein de calories. Et puis dans une quinzaine de minutes, le journal de l'Outre-mer avec vous, Tidiane Marode. Le Covid côté vaccination, ça commence aujourd'hui en Martinique.
Oui, Michael, une vaccination ouverte à tous les volontaires de plus de 18 ans et c'est à la une du journal.
À tout à l'heure, Tiziana et bienvenue à tous. Mais avant de développer tout cela, c'est avec tristesse que RFI a appris aujourd'hui la disparition de la chercheuse Paola Vasquez, anthropologue spécialiste du Venezuela. Vous avez très certainement souvent entendu sa voix sur nos antennes, elle travaillait au CNRS. Bonjour Marie Normand.
Bonjour.
Vous nous accompagnez pour la presse. Aujourd'hui, Marie, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux.
Oui, des politiques, des journalistes vénézuéliens. Le monde universitaire lui rend hommage. Aujourd'hui, rend hommage à une chercheuse essentielle dans la production de connaissances sur le Venezuela. L'ambassadeur de France à Caracas, Romain Nadal, fait lui part de sa profonde tristesse. Il décrit Paola Vasquez comme une intellectuelle brillante, avec de profondes convictions, d'une intégrité et d'une rigueur absolue. Nous pensons aujourd'hui à RFI, à sa famille et à ses proches. RFI.
Venons-en à l'actualité, Marie. Les jours s'enchaînent et les fusillades avec. Aux États-Unis, on est au Colorado.
We know of 10 fatalities at the scene.
10 morts à Boulder, ville du nord-ouest au nord-ouest de Denver. C'est la chef de la police que l'on entend là et qui l'annonçait hier soir. Parmi les victimes, un policier, le premier à être intervenu dans le supermarché où le tireur a fait irruption, Marie, avec une arme semi-automatique.
Et le New York Times note qu'il s'agit, après Atlanta, de la deuxième fusillade en moins d'une semaine. Un retour à la normale, en quelque sorte, après près d'un an sans fusillade de masse dans un lieu public. Le journal revient sur la longue histoire du Colorado avec ses tueries de masse depuis ce jour de 1999 où deux élèves avaient ouvert le feu sur leurs camarades dans le lycée de Columbine. Et pourtant, cette fusillade, elle a créé la stupeur encore à Boulderière.
Boulder feels like a bubble. And that's heartbreaking to think that.
Ryan Borowski, rescapé de la tuerie, confie son incrédulité à la chaîne CNN. À Boulder, dit-il, on se sent comme dans une bulle. J'ai le cœur brisé en pensant que des gens sont morts. On dirait qu'il n'y a plus d'endroit sûr. J'ai failli mourir juste en allant chercher un soda et un paquet de chips.
Et on attend, Marie, bien sûr, les réactions politiques qui viendront sans aucun doute du côté des élus du Congrès de Washington. Peut-être un jour la législation sur les armes à feu évoluera aux États-Unis. Peut-être un jour aussi, le Congrès américain aura 3 élus supplémentaires, 2 sénateurs et un représentant pour Washington. Aujourd'hui, la capitale fédérale est privée de représentation.
C'est injuste. On paye des impôts, mais notre voix ne compte pas. On est des citoyens, on a le droit de voter et de décider comment l'argent de nos impôts doit être utilisé par le gouvernement fédéral.
Parole d'une habitante recueillie par Anne Corpé. Un projet de loi pour rectifier ça vient de commencer à être examiné. Les démocrates le soutiennent. Les républicains dénoncent une manœuvre de la part de la majorité pour s'octroyer des élus supplémentaires. Restons aux États-Unis encore, Marie. Vous nous parlez de cette première, des réparations gouvernementales pour les Afro-Américains.
Oui, ça se passe à Evanston, c'est dans la banlieue de Chicago, nous apprend le Washington Post. Ces réparations visent à reconnaître les dommages causés par les politiques et les pratiques discriminatoires en matière de logement, notamment. Alors, ce vote du conseil municipal d'Evanston, il permettra dans un premier temps de débloquer 400 000 $ distribués sous forme de subventions pour l'accès à la propriété et l'amélioration des logements des Afro-Américains, qui constituent, Michael, 16% de la population de la ville. Alors, sont concernés principalement ceux qui peuvent prouver qu'ils sont des descendants directs de personnes qui ont vécu dans la ville entre 1919 et 1969, c'est précis, et qui peuvent prouver aussi qu'ils ont souffert de cette discrimination. En tout, c'est une enveloppe de 10 millions de dollars qui qui est prévu et qui sera financé par le revenu des taxes annuelles sur le cannabis au cours de la prochaine décennie.
Tout autre chose, Marie. La justice américaine se rapproche petit à petit du président du Honduras, Juan Orlando Hernandez.
Oui, nous dit La Prensa. Un jury de New York a reconnu coupable de trafic de drogue Giovanni Fuentes Ramirez hier. Selon les procureurs, ce dernier était un associé du président du Honduras. Il aurait, c'est ce que dit le communiqué du ministère de la Justice, facilité l'expédition de grandes quantités de cocaïne en soudoyant Juan Orlando Hernandez, en passant notamment par son frère Tony, qui est actuellement jugé lui aussi aux États-Unis. Le président du Honduras, lui, n'est jusqu'à aujourd'hui pas inculpé par la justice américaine. Il nie d'ailleurs toutes les accusations et assure, c'est à lire dans Tiempo Digital aujourd'hui, que les chiffres prouvent que sous son administration, le trafic de drogue a baissé de 95%. Il accuse la presse au passage de privilégier les unes et les titres les plus vendeurs, les plus spectaculaires.
Et cette affaire, elle n'arrange pas Joe Biden.
Oui, c'est une tribune d'un journaliste d'un grand média salvadorien à lire dans le New York Times. Juan Orlando Hernandez est un allié fidèle, on le sait, de Washington en Amérique centrale depuis près de 10 ans. Mais cette implication présumée dans un trafic de drogue en direction des États-Unis complique le maintien du soutien qu'il a toujours reçu. Pour les questions migratoires, la lutte contre le trafic de drogue, aujourd'hui, Washington n'a plus d'interlocuteur à Tegucigalpa, car il n'y a pas que le président, c'est tout le système, dit-il, qui est pourri.
La question migratoire, on en a beaucoup parlé ces derniers jours ici même, et ces photos, Marie, Photoshop, largement relayées à présent sur les réseaux sociaux.
Et qu'on retrouve aussi en une du Houston Chronicle, photo prise à Donna, au Texas, par un élu démocrate dans un centre d'hébergement d'urgence pour mineurs, centre du service des douanes et de protection des frontières. On y voit des enfants, des adolescents couchés les uns à côté des autres sur des matelas avec de simples couvertures de survie sous des tentes transparentes, des centres que l'élu dit surpeuplés. Les agents n'ont pas, selon lui, le nécessaire pour s'occuper de ces enfants. Axios, premier média américain à avoir eu accès à ces clichés, rappelle que l'administration Biden a limité l'accès de ces centres aux journalistes.
Et outre ces centres à la frontière, Marie, on retrouve aussi ces enfants non accompagnés hébergés dans des centres pour jeunes comme à Dallas ou Houston, comme nous le décrit notre correspondant Thomas Arms.
En janvier, 20 mineurs non accompagnés étaient hébergés par le YMCA de Houston. En février, ils étaient 11 fois plus. Dans les centres du YMCA, les conditions de vie sont beaucoup moins rudes que dans les camps à la frontière. Il y a quelques enfants de moins de 10 ans, mais ils sont rares. Nicole Sam y est la directrice du programme d'aide juridique aux migrants.
La majorité chez nous ont entre 14 et 17 ans et sont tous des garçons. Au service d'aide juridique, on explique aux enfants leurs droits par des images, par des diagrammes, avec des cartes, avec tout ce qui peut leur permettre de comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent juridiquement en procédure d'expulsion possible.
Les enfants dont aucune famille n'est trouvée continuent d'être accompagnés par l'organisation chrétienne. Ensuite commence la longue procédure administrative. Et si le mineur devient majeur, la procédure devient judiciaire et prend alors encore plus de temps.
Quand vous êtes majeur et n'êtes plus en détention, votre cas prend actuellement 5 à 7 ans, si ce n'est plus.
Depuis un an, avec le coronavirus, les tribunaux sont fermés et les affaires s'empilent sur les bureaux des juges. Thomas Arms, Houston. RFI.
Enfin, c'est à lire dans le Wall Street Journal de ce mardi. Marie Normand, les hôpitaux américains font tout pour cacher leurs tarifs.
Et ils trouvent, selon le journal, des moyens pour contourner une loi fédérale de l'administration Trump qui est entrée en vigueur le 1er janvier. Elle les oblige, pour une meilleure transparence, à publier le prix des soins dans leurs établissements. Mais le journal démontre que des centaines d'hôpitaux ont intégré des lignes de code dans leur site web qui empêchent les moteurs de recherche comme Google d'afficher les pages contenant les listes de prix. Il est toujours possible d'accéder à ces tarifs, mais bonne chance pour les trouver. Voilà ce que lance un professeur de l'Université de Washington, interrogé par Le Quotidien. Pour lui, c'est une chose de ne pas optimiser son site pour la recherche, c'en est une autre de le baliser pour qu'il ne puisse pas apparaître dans les moteurs.
Et c'est à lire donc dans le Wall Street Journal. Marie Normand, la presse, avec vous cette presse qui nous emmène à présent du côté de Port-au-Prince.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Où l'on retrouve le rédacteur en chef du site Alter Press. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Michael.
La colère des policiers fait toujours la une en Haïti après l'opération anti-gang ratée de Village de Dieu. C'était le 12 mars dernier. Ce mouvement de colère ne faiblit pas, vous nous dites Godson, et même il continue à faire des victimes.
Un agent de l'unité départementale de maintien de l'ordre, Udmo, a été tué et un autre blessé par balle hier à Delma, en périphérie de la capitale. Cela s'est produit lors d'un mouvement de policiers se réclamant du groupe Fantôme 509, selon les informations disponibles. Les membres de Fantôme 509 ont encore en effet gagné les rues pour exiger des autorités de récupérer les corps des agents tués lors de l'opération policière qui a échoué à Village de Dieu. Il y a un peu plus d'une semaine, Fantôme 509 avait déjà semé la panique dans les rues et procédé de force à la libération de 4 policiers placés, selon le groupe, injustement en isolement par l'inspection générale de la police.
Et justement, Godson, les agissements de Fantôme 509 inquiètent les associations de défense des droits de l'homme.
La fondation J'éclairé en particulier, qui se déclare très préoccupée devant la répétition de situations chaotiques créées par ce groupe à la capitale. La police serait-elle traversée par un courant fasciste, se demande la fondation, qui invite les défenseurs et défenseurs des droits humains, de la liberté, de l'état de droit, entre autres, à réfléchir sur cette question et à ne pas fuir le débat avant qu'il ne soit trop tard. Dans sa prise de position, la Fondation dénonce les actes de vandalisme et de pillage qui ont été commis.
Et dans ce contexte, Godson, le syndicat de la police annonce pour aujourd'hui un sit-in.
Oui, c'est le syndicat de la police nationale qui appelle à ce sit-in aujourd'hui à la capitale, entre autres objectifs de cette initiative, réclamation de la démission du directeur général de la police, Léon Charles. Le syndicat dénonce des manœuvres de politisation de la police qui seraient de plus en plus sous l'emprise du régime de Jovenel Moïse, dont le mandat constitutionnel a pris fin le 7 février dernier.
Et tout ça est donc à lire sur votre site en ligne Alter Presse. Godson Pierre, rédacteur en chef avec nous chaque mardi. Merci. 9h22 au Québec, nous voilà au Canada, où chaque année, quand le printemps arrive, que la neige fond, on se rue sur les cabanes à sucre, ces restaurants saisonniers installés dans les plantations d'érable. On y déguste le sirop tiré de la sève des arbres, c'est délicieux. Mais tout ça, c'était avant le Covid, bien sûr, et les restrictions. Heureusement, au Québec, on sait s'adapter. Reportage, Pascal Guéricola.
Vous allez bien? Venez chercher une commande?
Christine Tardy accueille ses clients sur le pas de la porte de l'érablière du Cap.
Juste approcher votre voiture ou la table.
Tant qu'à avoir rien, c'est mieux d'avoir ça. Au moins, je vais pouvoir en profiter. Ça te porte à viande, des oreilles de Chris.
Les chips de lard salé font partie des spécialités de la cabane à sucre qui ont poussé cet amateur à venir chercher son repas à emporter. Tout comme cet autre client, impatient de découvrir sa boîte repas.
C'est une surprise pour nous autres à l'intérieur de la boîte, on le sait pas. Mm-hmm. Puis l'érablière, là, je dis, regarde, moi, c'est merveilleux, c'est goûteux, c'est... Fait que s'il faut les encourager. Sans ça, ils vont faire faillite.
Généralement, l'érablière du Cap accueille environ 450 convives à chaque repas au printemps dans son immense bâtiment. Pas cette année, ni l'an dernier, Covid oblige. Christine Tardy et sa famille misent sur les menus à emporter pour rentrer un peu dans leurs frais.
Il y a déjà des entreprises comme nous qui ont déjà fermé parce qu'on ne sait pas les rassemblements, qu'est-ce que ça va ressembler. On va-tu pouvoir faire des mariages cet été? On ne sait pas. Fait qu'on mise tout pour les 2 prochains mois. On est une entreprise familiale. Il y a mes 2 parents, puis on est 3 sœurs. Fait qu'on y croit, notre entreprise, puis on sait que ça va reprendre un jour.
C'est de l'huile canola, de l'huile végétale, que j'étends sur ma plaque. C'est pour éviter que les crêpes collent parce qu'on veut vraiment le côté croustillant de la crêpe.
Depuis 20 ans, Marie-Josée Tardy règne sur la fabrication des crêpes croustillantes que ses clients nappent de sirop d'érable.
Notre mandat aussi avec la cabane de la maison, on avait demandé de rester le plus authentique possible, pas arriver avec de quoi de très commercial, que là, bon, mais ça goûte la même affaire qu'à l'épicerie ou au supermarché. Fait que c'est pour ça qu'on a fait des tests aussi, savoir, bon, OK, quand on fait tel produit, comme les omelettes, on voulait qu'elles restent quand même moelleuses. Puis on a vraiment des bons commentaires, là, les gens. Fait que, bon, oui, mission accomplie.
L'idée d'associer tous les propriétaires de cabanes à sucre et de distribuer leurs repas dans l'ensemble du Québec a germé dans la tête de Stéphanie Lorrain. Le cri du cœur de cette directrice d'une cabane dans le nord de Montréal, inquiète de voir disparaître cette tradition bien québécoise, a été entendu par des entrepreneurs.
Les cabanes à sucre, nous sommes en région très éloignée. Alors, c'est vraiment très difficile pour nous de rejoindre les consommateurs qui sont dans les grands centres. C'est qu'on m'a dit, écoute Stéphanie, il y a une solution à tout. On va rejoindre la bannière d'épicerie métro, qui est une bannière québécoise. On va leur parler de notre problématique. Ils ont peut-être une solution pour nous. Le lendemain, j'avais une rencontre avec la haute direction de métro, moi, la petite fille d'acériculteur, dans sa petite cabane à sucre. J'étais devant eux, puis en 5 minutes, ils se sont investis dans la cause et ils ont dit, on va vous aider, on va mettre toutes nos ressources à votre disposition pour pouvoir sauver les cabanes à sucre du Québec.
Le bruit du scotch qui sert à emballer les plats dans les boîtes de carton a remplacé le son du violon et des cuillères qui retentissent au printemps dans l'immense salle à manger de l'Érablière. Désormais, le fondateur de ce restaurant, Jean-Paul Tardy, mise sur les repas livrés dans les supermarchés pour surmonter cette drôle d'année.
Le temps naturel du temps des sucres arrive, là. Donc, les Québécois, ça va les titiller un peu. Donc, on espère que ça va continuer jusqu'à la fin avril. Pour l'instant, si ça va bien, on continue. L'avenir est dans la boîte.
Comme toute sa famille, Jean-Paul Tardy espère que les clients reviendront à l'Érablière l'an prochain. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Et on l'espère, hein, même sans être au Québec. Le Covid en Martinique, c'est à la une maintenant du journal de l'Outre-mer.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Tiziana Marone.
Bonjour Michael.
La Martinique, où est donné aujourd'hui le coup d'envoi de la vaccination pour tous?
Oui, Michael, elle est ouverte pour tous les Martiniquais de plus de 18 ans. Ce sont les médecins traitants qui sont chargés de vacciner les volontaires. Audrey Govendin de Martinique la Première.
70% des personnes qui réclament aujourd'hui le vaccin auprès des médecins généralistes viennent de l'Hexagone. Des personnes présentes sur le territoire pour une durée excédant 3 semaines. Ces patients sont vaccinés à l'AstraZeneca, dont la reprise est plutôt timide sur le territoire martiniquais. Les précisions du docteur Raymond Doray, qui fait partie des médecins sentinelles de l'île.
Les patients sont très réservés, sont très dubitatif pour l'instant.
La semaine dernière, dans les centres de vaccination, malgré la suspicion de l'AstraZeneca, les Martiniquais ont pourtant répondu présents. Normal, ceux qui y sont accueillis sont vaccinés au Pfizer, vaccin pour lequel les risques secondaires n'ont pas fait la une des journaux.
Le vaccin que j'ai pris, c'est celui de Pfizer, je pense. Oui, c'est cela, c'est la deuxième injection. Pour l'instant, ça va. Je suis pas devenu cheval.
En pleine crise sanitaire, la course au vaccin s'accélère au même rythme que l'apparition des variants. Plus près de nous, à Cuba, les scientifiques ont développé leur propre vaccin et sera bientôt proposé à la commercialisation.
Audrey Govendin de Martinique à la Première. Et il faut dire qu'à Martinique, le nombre de cas de Covid-19 a quadruplé en un mois. Les autorités pensent à instaurer à nouveau le couvre-feu pour 3 semaines. Le nouveau point sera fait cet après-midi. L'herbe à pic, cette plante endémique des Antilles, a fait couler beaucoup d'encre sur son efficacité contre la Covid-19. Sa molécule aurait un effet inhibiteur en empêchant au virus de se développer. La découverte du laboratoire guadeloupin Phytobocase ne laisse pas indifférents les chercheurs du monde entier. La Guyane à présent, qui vise l'autonomie énergétique pour 2030, à Montcinéry, accueille sa deuxième ferme photovoltaïque Toucan 2. Elle a été inaugurée en janvier. Cette ferme est dotée de 12 000 panneaux solaires. Les explications de David Ojex, directeur outre-mer d'EDF Renouvelables. Il est au micro de Lindy Nédan de Guyane la Première.
Toucan 2 a bénéficié sur les 5 dernières années par rapport à Toucan 1 de l'évolution des technologies, donc où on a besoin d'un peu moins de panneaux pour produire autant d'énergie. D'autre part, évolution des technologies aussi en termes de batterie, avec un pilotage beaucoup plus fin de ces fameux pics, hein, pour être parfaitement adapté aux besoins de la consommation. Et enfin, le coût. Puisque les panneaux solaires ont subi une baisse de coût relativement importante, ce qui permet de livrer de l'électricité à faible coût sur le réseau guyanais.
Et du coup, la Guyane en autonomie énergétique en 2030, ce qui met un terme à cette édition. Bonne journée.
Merci beaucoup Tiziana Marone et on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle édition de La Première. Dans notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques, réalisé aujourd'hui par Claude Battista, retrouvé bien entendu sur notre application RFI Pure Radio en podcast, mais également via les réseaux sociaux, je vous rappelle, sur Facebook et sur Twitter avec @RFIAmérique. Vous pouvez nous suivre et commenter l'actualité. Très bonne journée à tous et à demain sur RFI.
RFI.
Autour de la question.
Caroline Lachowski s'interroge.